Alors, tout le long de l'occupation grecque en Perse, il y a eu, en tant que conflit de conception de la monarchie, un conflit entre les Macédoniens et surtout entre cette minorité de vétérans macédoniens qui tenaient beaucoup aux coutumes de l'ancienne Macédoine, coutumes absolument grecques, et ceux qui persisaient, c'est-à-dire ceux qui acceptaient les idées d'Alexandre, qui voulaient se considérer comme roi de Perse. Comme roi de Perse et comme capable, n'est-ce pas, de concilier l'Occident et l'Orient. Mais pour expliquer ça, il faut remonter en arrière à la fin de l'Empire perse. Nous avons vu que l'Empire perse avait été d'abord très, très entamé par les deux premières grandes victoires d'Alexandre, celle du Granique et celle de Issus. Le Granique 333, ou peut-être 333 ou 34, je ne me rappelle pas exactement. Et puis Issus, 2 ans plus tard, 332. Il y a eu une autre très grande bataille, Arbel. Arbel, où les Perses se sont défendus avec une armée très, très, très nombreuse. Et des contingents d'autres pays, et des éléphants. C'est la première fois que les Grecs voyaient des éléphants à la guerre. Peut-être en avaient-ils vu autour de 400 pendant l'expédition des 10 000, mais c'est pas sûr. En tout cas, là, il y en avait. Alexandre a été complètement vainqueur quand même, grâce à sa tactique, grâce à son génie militaire. Et Darius s'est enfui. Et ça a été la poursuite de Darius. Darius s'est enfui avec un de ses satrapes qui s'appelait Bessus. Il s'est enfui, Alexandre le Grand courait après. Il a fini par l'attraper, mais c'était déjà trop tard. Il aurait aimé le prendre prisonnier. Et le garder à sa cour, il l'aurait traité très généreusement. Il a traité d'ailleurs très généreusement sa femme, ses filles, enfin toute sa famille qui était restée à l'arrière. La femme s'appelait Sigigambis. Les filles, Barcine et Statira. Et avant que Alexandre ne rattrape Darius, Bessus, pensant peut-être lui succéder, pensant négocier avec le concurrent et lui succéder, Bessus l'a tué, l'a poignardé. Alexandre le Grand a trouvé son corps. Il lui a fait faire des funérailles magnifiques, très généreusement. Et il a couru après Bessus. Il ne voulait pas d'un traître. Bessus aurait été très content de se mettre à ses pieds, mais lui ne voulait pas de traître. Il était dégoûté de la conduite de Bessus. Il a fini par l'attraper. Il ne l'a pas tué. Il l'a envoyé à la mère de Darius, qui elle l'a tué très cruellement. Mais enfin, c'était la mode perse. Alexandre ne voulait avoir aucune espèce d'exécution selon des modes qu'ils appelaient barbares. Bessus a été écartelé. C'est-à-dire, il a été attaché à des arbres, deux arbres, les pieds à l'un, les bras à l'autre. Et les arbres, quand ils se sont relevés, ils étaient courbés, ils lui ont arraché les membres. Enfin, c'était un traître. Alexandre a continué ses conquêtes, tout en faisant ce qu'il pouvait pour garder la Perse en tranquillité. Il a mis des Grecs et des Perses à la tête des provinces, comme satrape. Il a essayé que les Grecs, n'est-ce pas, ne soient pas trop choqués des coutumes perses. Par exemple, la coutume qui voulait qu'un homme, et surtout un grand, soit habillé jusqu'au poignet, n'est-ce pas? La nudité que les Grecs aimaient était au contraire une abomination pour les Perses. Alexandre a essayé de concilier tout ça, mais il n'y est pas arrivé. Il y avait toujours des occasions, en Perse même, avant qu'il n'allait plus loin, des occasions où il réunissait ses soldats et il y avait des beuveries, comme il y avait en Macédoine. C'était la coutume. Dans une de ces beuveries, un de ses familiers, Clitos, celui qui lui avait sauvé la vie au Granic, Clitos a déclamé. Il a dit qu'il ne se vante pas trop celui-là, Alexandre. Sans son père, qu'est-ce qu'il serait? C'est son père qui a commencé. Il ne fait que continuer son père. Et puis, qu'est-ce qu'il serait maintenant? Si ce n'était pas moi qui l'avais sauvé, eh bien, il serait dans le fond de la mer, ou dans le fond du fleuve, du granit. Enfin, il en a tellement dit qu'Alexandre, qui avait trop bu, ils avaient tous trop bu. Les Macédoniens étaient des grands buveurs. Et les vins d'Asie étaient bons. Eh bien, Alexandre l'a, n'est-ce pas, a tiré un champ javelot et lui a lancé. Le javelot l'a tué. Clitos est mort. Alexandre a voulu se tuer sur son corps. Il a fallu que les autres lui arrachent le javelot. Il est resté 3 jours dans sa tente sans boire ni manger. Il ne voulait pas aller plus loin. Il regrettait ce qu'il avait fait. C'était un acte d'impatience, de colère. Et plus tard, il en fera autant avec un autre grec qui s'appelle Callisthène, un philosophe cette fois-ci, dans une beuverie. C'est le danger des beuveries. Enfin, il va plus loin. Il va plus loin. Il va dans ce que nous appellerions aujourd'hui l'Afghanistan. Bactre, la capitale de l'Afghanistan ce temps-là. Un nid d'aigle, n'est-ce pas? Une forteresse à pic. Il l'a prise et il a trouvé dedans un satrape perse. Il a entendu parler de la fille du satrape, qui était, paraît-il, une beauté extraordinaire, Roxane. Il a demandé à la voir. Il l'a épousée. C'est sa première femme, Alexandre. Roxane, elle s'appelle. Il a passé quelque temps dans le château du père, avec elle. Et puis il est allé plus loin. Il épousera plus dans la suite Statira, la fille de Darius. Et ce sera sa seconde femme, sa seule. Il n'en a eu que ces deux-là. Ce n'était pas un homme qui était porté sur le sexe. Il va plus loin. Il va en Inde. Il y a un raja hindou qui s'appelait Taxila, du nom de, c'était le roi de Taxila. Taxila, je l'ai vu. C'est une ville tout à fait dans le nord de l'Inde. Et célèbre de nos jours par son art gréco-bouddhique. C'est-à-dire, on y trouve des quantités de statues bouddhiques avec des draperies grecques et ils sont au fond des statues grecques, l'influence grecque. Taxila est venu faire ses hommages à Alexandre. Il ne l'a pas combattu. Un autre l'a combattu, qui s'appelait Poros, Puru. En hindou, en langue indienne, on l'appelle Puru. Puru l'a combattu avec une armée d'éléphants. Malgré d'éléphants et de chevaux aussi, naturellement. Pas rien que des éléphants. Et il a été défait, également. Il était défait. On l'a amené devant Alexandre avec 9 blessures. absolument en sang. Il s'était bien battu. Et Alexandre lui a demandé, comment veux-tu que je te traite? Comment aimerais-tu être traité? Pourou a répondu, en roi. Réponse très fière, qui a plu à Alexandre. Alexandre aimait ses réponses fières, aimait les gens qui ne se plient pas. Il lui dit, très bien, j'exaucerai ta prière. Il lui a laissé son royaume et lui a donné la moitié du royaume de l'autre qui s'était incliné devant lui, sans combat, sans être un guerrier. Voilà ce qui peint le caractère d'Alexandre. Et puis il est allé plus loin. Il est allé jusqu'au Bias, ce qu'on appelle aujourd'hui le Bias, affluent de l'Indus. Il a passé l'Indus, il a passé d'autres affluents, il était jusqu'au Bias. J'ai été bien des fois, quand j'étais professeur à Jalandhar au Punjab, en 1936, bien des fois je me suis arrêté dans la gare qu'on appelle Bias, parce qu'elle est sur le bord de la rivière du même nom. Et là, sur le bord de cette rivière, à l'endroit où il y a aujourd'hui la gare, ou enfin tout près, s'est passée une scène, je dirais presque déchirante. Alexandre voulait aller plus loin. Il voulait aller jusqu'au Bengale, il voulait aller je ne sais pas où. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait si ses soldats avaient bien voulu le suivre. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait pendant l'été, dans la plaine indo-gangétique. La chaleur est horrible à Delhi, qui n'est pas encore la plaine indo-gangétique, c'est seulement le début de la plaine. En Delhi, il fait 50 degrés à l'ombre en été. Il en fait 4 ou 5 degrés en hiver, mais en été, il en fait non pas 40, mais 50. Qu'est-ce qu'il aurait fait plus loin? Et là, c'est saison des pluies. Il en tombe comme si on versait des fleuves du ciel. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, les Grecs, armés comme ils étaient armés à l'époque, dans toute cette boue et cette eau? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir ce qui aurait été. Il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé pour la simple raison que ses soldats lui ont dit non. Ils n'ont pas voulu le suivre. Ils ne pouvaient pas. Ils lui ont dit, nous avons conquis un monde pour toi. Tu en veux un autre. Va le conquérir tout seul. Et alors un de ceux, ce qu'on appelait Koinos, un vieux soldat, un vétéran, et s'est tenu debout devant lui et a parlé au nom de toute l'armée. Il a ouvert sa tunique. Il a montré sa poitrine et son corps plein de cicatrices. Il a dit, vois-tu, voilà ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous avons fait tout ce que les hommes pouvaient faire. Tu nous demandes de faire une œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Retourne en Grèce. Tu trouveras là une jeunesse toute prête à te suivre. Et nous, laisse-nous retourner. Alexandre n'était pas content. Mais ils n'étaient pas contents, je vous assure. Il s'est enfermé dans sa tente, il n'a plus voulu rien savoir, mais ni boire, ni manger, ni voir personne. Il est resté plusieurs jours. Et puis après, il a réfléchi, que voulez-vous qu'il fasse? On ne peut pas conquérir un pays tout seul. C'est une impossibilité physique. Non pas mathématiques, mais physiques. Il a dit, bon, je me soumets. Je vous ramène en Grèce. Ça a été une explosion de joie. Ils se sont prosternés à ses pieds. Ils l'ont embrassé. Ils l'ont tenu les genoux dans les bras, le remerciant de les ramener en Grèce. Ils n'y sont jamais allés. Retourner en Grèce, c'est la manière dont ils pensaient, mais enfin... Ils étaient si contents. Et ça se passait au bord de la rivière Bias, pas très loin de la gare de chemin de fer actuelle. Avant de partir, il a construit deux hôtels. Un hôtel à des dieux, aux dieux hindous, qu'il honorait. Il honorait les dieux de tous les pays. et un autel aux 12 Olympiens, aux 12 principaux dieux de la Grèce. Il a fait ses sacrifices aux divinités avant de partir. Il a divisé son armée en deux. Il avait une flotte, il a construit une flotte qui a remonté l'Indus et qui est allée jusqu'en Perse par le golfe Persique. Les bouches de l'Indus et puis le golfe Persique. Et cette flotte était commandée par Néarque. Et lui, il a pris une partie de l'armée. L'armée qui n'était pas montée sur les vaisseaux, il l'a prise lui-même en charge. Et il a pris la route de terre, la route à pied. Pas la route qu'il avait prise en venant, mais l'autre route, celle du Baloutchistan. J'ai traversé moi-même le Baloutchistan 3 fois. C'est un désert, mais pas un désert de sable, c'est un désert de cailloux. Il y fait extrêmement chaud, il n'y a presque pas d'eau, et quand il y en a, c'est de l'eau salée. Et c'est à travers ça que les Grecs, avec leurs armures, avec leurs armes, leurs javelots, leurs épées, quelques-uns avec leurs cuirasses, avec ça, c'est là qu'ils sont passés pendant des jours et des jours. Et les pauvres chevaux, heureusement, le cheval d'Alexandre, Boucéphale, celui qu'il avait dompté à l'âge de 13 ans, que personne ne pouvait dompter, mais que lui avait dompté à l'âge de 13 ans, en étant très bon pour lui, en le caressant, il savait prendre les bêtes comme il savait prendre les hommes. Et heureusement, je dis, ce cheval-là est déjà mort. Il est mort dans la campagne des Indes. Ce retour à travers le Baloutchistan a été une horreur. Les 4/5 de l'armée sont mortes de soif et de faim. Une fois, on a apporté au fond d'un casque une goutte d'eau, mettons une cuillerée à soupe d'eau. Et on a dit, Alexandre, c'est pour vous, ça. Il dit, très bien. Et mes hommes? Ah ben, vos hommes, bien, que voulez-vous, il y a que ça d'eau. Il a pris le casque, il a renversé l'eau sur les cailloux. Il dit, si mes hommes n'ont pas d'eau, moi, je ne boirai pas. Il n'a pas bu. Il partageait toujours les misères de ses hommes. Et ses hommes l'adoraient pour ça. Il est enfin arrivé en Afghanistan et en Perse. Je pourrais presque dire en Perse directement, parce que le Baloutchistan, c'est au sud de l'Afghanistan. C'est la frontière du Baloutchistan, c'est aujourd'hui du côté perse, Zahedan. En 1956, durant l'un de mes 5 ou 6 voyages en Inde, eh bien, j'ai passé par Zahedan, justement. Mais il y a le train aujourd'hui. Et dans le train, vous avez les plis de mon sari, les plis de mon sari pleins de poussière. Et toutes les fois que j'ai passé à travers le Baloutchistan, c'est pareil. Il y a une poussière énorme. Et puis la chaleur. Même aujourd'hui, même avec les commodités d'aujourd'hui, dans l'Antiquité, ça devait être terrible. Enfin, ils arrivent en Perse. En Perse, ils se sont un petit peu refaits. Ils ont marché sur Babylone. Nous sommes maintenant en 323 avant Jésus-Christ. Et pendant le printemps, ils arrivent au mois de juin à Babylone. Repos, naturellement, réunion des chefs, distribution de mangeailles à tout le monde. Alexandre a voulu aussi célébrer les noces de femmes perses avec des hommes grecs, parce que, contrairement à ce qu'on dit, il n'était pas du tout antiraciste, il n'était pas du tout pour les mixtures de sang, mais les Perses de l'Antiquité étaient des Arias, comme les Grecs, comme les Germains, comme les Romains, comme nos peuples à nous. Donc, permis le mariage. Il n'a jamais permis le mariage entre grec et égyptien, grec et juif, grec et autre chose que des populations aryennes, ou tyriens, ou sémites, syriens. Il n'a jamais permis ça. Avec des Perses, oui. C'était donc un homme qui considérait la race au-dessus de l'État. Il avait des idées, en somme, je dirais très modernes. Ou plutôt, nos idées modernes sont très antiques. Les anciens Grecs ne s'épousaient pas de province à province à l'intérieur de la Grèce même. Ils étaient un peu comme les Indiens d'aujourd'hui avec leur système des castes. Aujourd'hui, en Inde, un brahmane du Cachemire n'épouse pas une brahmane du Punjab. Un brahmane du Bengale épouse une brahmane non seulement du Bengale, mais de la même région du Bengale que lui, de la même Sreni. C'est comme la Grèce antique. Mais du temps d'Alexandre, il y avait déjà cet esprit, il y avait du moins chez quelques-uns, et en particulier chez Alexandre lui-même, l'esprit que la race est la chose naturelle. L'État, la cité, la nation, c'est toutes des affaires qui sont fabriquées par l'homme. La race ne l'est pas. Alors pourquoi pas un Grec épouser une Perse? Ce ne les a rien tous les deux. Ils l'étaient dans ce temps-là. Les Perses ne sont plus purement aryens de nos jours parce que les Arabes ont passé là en 651 après Jésus-Christ. Il y a eu une certaine mixture entre les Perses et les Arabes. Il y a une minorité de Perses, adorateurs de Zoroastre, d'Ahura Mazda, se sont exilés de la Perse entre le 7e et le 8e siècle, après Jésus-Christ toujours. Et ils ont demandé refuge en Inde, au Gujarat, auprès d'un Raja qui s'appelait Sanjan. Et Sanjan leur a dit, mon pays est plein, il n'y a pas de place pour vous. Et pour le leur montrer, il leur a envoyé un vase de lait plein jusqu'au bord. Il n'y a pas de place. Comme ce vase de lait est plein, mon pays est plein. Le chef des réfugiés a pris le vase, il a pris une cuillerée de sucre qui se trouvait là, je ne sais pas où il l'a trouvé. Il a mis le sucre dans le lait. Il a dit, il y a toujours de la place pour du sucre. Nous sommes le sucre. Voulez-vous nous accepter? Il les a acceptés après leur avoir imposé 12 conditions, dont l'une était de parler la langue gujarati, l'autre était que les femmes portent le sari à la manière des femmes du Gujarat, les autres étaient qu'ils ne mangent jamais de bœuf ou de bovin, la vache et les bovins en général étant sacrés en Inde. Enfin, 12 conditions qu'ils ont acceptées. Ils sont restés là et il y a encore leurs descendants. Il y a la communauté Parsi, c'est-à-dire Perse, encore à Bombay. De nos jours, ce sont les plus riches habitants de Bombay, des grands commerçants. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour montrer le racisme d'Alexandre. Il y a eu des beuveries, naturellement, à l'occasion de ces mariages, puis à l'occasion du repos de l'armée qui avait souffert tellement, tellement dans le passage du Baloutchistan. Et il n'est pas bon de boire trop, où que ce soit, même en Macédoine. Il y avait toujours des querelles impossibles en Macédoine après les beuveries. Mais sous la latitude de Babylone, en Irak, la latitude de nos jours, nous dirions Bagdad, principalement de Bagdad, Babylone. Ça peut être fatal. Et ça a été fatal pour Alexandre. Il a pris une fièvre maligne, qu'on n'a pas pu arrêter. Et il est mort. Il est né le 19 juillet 356. 1956, il est mort au mois de juin. J'ai su la date autrefois. Je la sais encore, mais je n'en suis pas sûre. Je ne veux pas vous la dire parce que je n'en suis pas sûre. Au mois de juin, toujours, 323 avant Jésus-Christ. Il a été honoré naturellement comme un dieu. On l'a mis au tombeau. On a transporté son tombeau à Alexandrie. Alexandrie d'Égypte. La grande Alexandrie, qui est devenue si célèbre dans la suite, qui est devenue le centre de la domination grecque en Égypte. Mais cette Alexandrie n'est pas la seule. Il en a fondé une vraie flopée tout le long des pays qu'il a envahis, n'est-ce pas, qu'il a jusqu'en Inde. Et si des Grecs ont régi l'Égypte jusqu'à 31 avant Jésus-Christ, ça fait à peu près 300 ans, même pas un peu plus de 300 ans, vous avez d'autres Grecs qui pendant 250 ans ont régi l'Afghanistan et le Pendjab en Inde. Il y avait d'abord, je vous raconterai ça une autre fois, ça sort complètement de l'histoire d'Alexandre, mais ce sont des successeurs d'Alexandre. Ce sont des Grecs qui venaient de son armée. Bon. Nous passons maintenant. Je ne veux pas vous raconter toute l'histoire des Ptolémées, des successeurs d'Alexandre en Égypte. Il y a aussi les Antioches, les Antiochus et les Séleucus, les successeurs d'Alexandre dans le deuxième grand royaume de ses successeurs, avec Antioche comme capitale, s'étendant de l'Inde jusqu'à la Méditerranée. Et puis, il y a la Macédoine et la Grèce. Ça peut vous intéresser, je vous dirai tout de même ça. Un des généraux d'Alexandre, qui s'appelait Cassandros, a épousé une de ses sœurs d'Alexandre. Sœur de père, mais pas de mère. Il n'avait qu'une sœur de sa mère, qui s'appelait Cléopâtre. Et nombre de femmes grecques de ce temps-là s'appelaient Cléopâtre. Il n'était pas la seule.